Laudetur Jesus Christus.
Les relations entre la Russie et la Corée du Nord renforcées, Vladimir Poutine en visite à Pyongyang et Kim Jong-un ont signé il y a peu un accord qualifié de fondamental entre leurs deux pays. On y revient juste après les titres. Israël avait connaissance du plan du Hamas pour le 7 octobre, tout était détaillé. C'est ce qu'affirme une télévision israélienne, une pièce importante à verser au dossier de l'enquête sur les failles sécuritaires israéliennes. Le drame oublié du Soudan. La moitié des 25 millions d'habitants ont un besoin urgent d'aide humanitaire en raison des combats entre l'armée et les paramilitaires. Nous entendrons l'appel du CICR, la Croix-Rouge internationale. Aux États-Unis, après avoir durci les conditions d'accès à l'asile politique, Joe Biden régularise 500 000 épouses de citoyens américains sans papier. Une des mesures les plus progressistes en matière d'immigration depuis plus d'une dizaine d'années. 10 ans après la prise de Mossoul par les djihadistes de l'État islamique, où en est le retour des chrétiens dans cette région de l'Irak et de la confiance au sein de la société. On en parle avec Mgr Michael Najib, l'archevêque chaldéen de Mossoul, à suivre à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Une nouvelle ère de prospérité entre la Corée du Nord et la Russie. C'est ainsi que Kim Jong-un définit la nouvelle relation avec Moscou. Le dirigeant nord-coréen s'exprimait à la suite de la venue de Vladimir Poutine à Pyongyang. Les deux chefs d'État auraient signé des accords pour approfondir leurs relations. Ce nouveau document fondamental déterminera les relations entre les deux pays pour le long terme, commente Vladimir Poutine. Les précisions à Séoul de Clément Le Breton.
Kim Jong-un et Vladimir Poutine, debout côte à côte dans une voiture, quittant la place Kim Il-sung, devant la foule de Nord-Coréens en liesse. Les deux chefs d'État se sont rencontrés pour officialiser l'approfondissement de leurs relations. Si le contenu des accords et des discussions devrait rester confidentiel, Kim Jong-un a annoncé le renforcement stratégique entre les deux pays. Vladimir Poutine, quant à lui, remercie la Corée du Nord pour son soutien dans la guerre en Ukraine. En effet, Pyongyang aurait fourni des missiles et des munitions à l'armée russe. En janvier, un missile de confection nord-coréenne avait été retrouvé sur le front ukrainien. Kim Jong-un a lui apporté son soutien inconditionnel à la politique russe. Au-delà des discussions militaires, les deux chefs d'État ont aussi abordé les questions économiques et énergétiques. Vladimir Poutine a enfin exprimé son souhait de revoir Kim Jong-un à Moscou cette fois, dans ce qui pourrait être la quatrième rencontre entre les deux chefs d'État et une sortie rare du leader nord-coréen hors de son pays. Clément Le Breton, Séoul, Radio Vatican.
Oui, les autorités israéliennes et l'armée étaient au courant des plans du Hamas pour le 7 octobre. C'est ce que révèle une télévision israélienne qui affirme que le renseignement militaire avait eu connaissance d'un plan d'attaque du Hamas dont le but était de prendre des centaines d'otages. Des révélations bien embarrassantes alors que les Israéliens enquêtent sur les failles de leur système de sécurité. À Tel Aviv, les précisions de Sandy Fortis.
Tzal aurait eu entre ses mains un document détaillant le plan du Hamas avant le 7 octobre. Selon la chaîne publique israélienne Kan, le document en question est daté du 19 septembre, soit 3 semaines avant le massacre, et compile des informations récoltées par l'unité 8200. On y trouve une description détaillée d'entraînement de plusieurs commandos du Hamas observés dans Gaza, notamment des simulations de raids dans un avant-poste factice de Tzal, sa prise de contrôle et l'enlèvement de soldats. Le document mentionne même un chiffre éventuel d'otages, soldats et civils confondus, entre 200 et 250. On y trouve aussi des instructions sur la façon de capturer les otages, leur bander les mains et les yeux, s'assurer qu'ils n'ont pas de téléphone. Il est indiqué de déplacer les otages si leur position est découverte et même préciser dans quelles conditions les exécuter. Mais le pire scénario envisagé dans ce rapport était l'invasion de dizaines de terroristes via 3 brèches, alors que le 7 octobre, 3000 terroristes se sont infiltrés en Israël via une trentaine de brèches dans la barrière de sécurité. Si Tzal n'a pas reconnu officiellement la validité de ce document, des sources sécuritaires affirment qu'il était connu des plus hauts responsables du renseignement de la division de Gaza. Une enquête sur les failles qui ont conduit au massacre du 7 octobre est en cours. Les conclusions préliminaires du groupe d'enquête de l'état-major israélien devraient être présentées d'ici 2 semaines. Depuis Tel Aviv, Sandy Fortis, journaliste i24 News pour Radio Vatican.
Après la bande de Gaza, Israël va-t-il s'en prendre au Liban? En tout cas, le ministre israélien des Affaires étrangères menace directement le Hezbollah d'une guerre totale pour le détruire, précisant que le Liban sera touché durement. Israël Katz s'exprimait alors que l'envoyé spécial des États-Unis était à Beyrouth pour rappeler à la cessation des tirs réciproques entre Hezbollah et armée israélienne. Armée qui annonce avoir approuvé les plans d'offensive au Liban et poursuivre la préparation des troupes sur le terrain. C'est un conflit qui est très peu médiatisé. La guerre civile au Soudan. Depuis plus d'un an, l'armée affronte des paramilitaires et c'est bien sûr la population civile qui en paie le prix lourd. L'ONU continue d'alerter sur la situation désastreuse dans laquelle vivent des millions de personnes. Sur les 25 millions d'habitants, la moitié a besoin d'une aide humanitaire d'urgence, alors que l'accès aux soins de santé demeure plus que difficile. Sur le terrain, la Croix-Rouge tente d'apporter un peu de soulagement à ces familles exténuées. Adan Ezam est le porte-parole de la Croix-Rouge internationale au Soudan.
Le monde ne doit pas oublier la tragédie que le peuple soudanais est en train de vivre et ses besoins croissants dans un contexte d'escalade du conflit. Nous appelons la communauté internationale à garder à l'esprit les millions de Soudanais qui, chaque jour, luttent tragiquement pour satisfaire leurs besoins fondamentaux. Nous demandons de continuer à soutenir les organisations humanitaires qui travaillent sur le terrain pour répondre à ces besoins immenses et variés en termes de secours, d'assistance et de protection. Il y a encore 2 mois, nous parlions de 8 millions de personnes réfugiées. Aujourd'hui, on est à 9 millions. L'évolution de la situation a donc affecté un grand nombre de Soudanais. Si l'on parle spécifiquement du système de santé, seuls 20% des centres de soins fonctionnent encore. L'une des questions clés est la nécessité de respecter le droit humanitaire international et c'est là un élément important de notre appel. Continuer à rappeler aux acteurs du conflit leurs obligations en vertu du droit humanitaire international. C'est leur responsabilité de s'assurer que les personnes vivant sur leur territoire puissent satisfaire leurs besoins essentiels, notamment en disposant d'une quantité suffisante de nourriture et d'eau et en garantissant un accès sans entrave à l'aide vitale.
Des propos recueillis par notre consoeur Déborah Castellano-Louboff du programme anglophone de Radio Vatican. Un peu plus de censure encore au Burkina Faso. La junte suspend pour 6 mois la chaîne francophone TV5 Monde. Les militaires l'accusent de diffuser des propos tendancieux. En cause, la retransmission d'une émission ayant parlé de la situation sécuritaire du pays. L'un des invités, Newton Ahmed Barry, ancien président de la commission électorale, s'est montré critique du régime militaire. Elles étaient mariées à des citoyens américains mais n'avaient pas de permis de séjour aux États-Unis. 500 000 femmes vont ainsi être régularisées. Pour cela, elles doivent vivre depuis 10 ans dans le pays. Décision annoncée hier par Joe Biden qui leur évitera ainsi d'être expulsées, leur permettra aussi de travailler légalement et d'entamer les démarches pour obtenir la citoyenneté américaine. C'est l'une des mesures les plus progressistes sur l'immigration depuis plus d'une dizaine d'années aux États-Unis. À Atlanta, Edouard Maille.
Ces couples ont élevé une famille, ont envoyé leurs enfants à l'église et l'école, ont payé des impôts, ont contribué à notre pays, a déclaré Joe Biden. Dans la presse américaine, la mesure est comparée à la fameuse politique de Barack Obama il y a 12 ans pour protéger les mineurs sans permis de séjour et pour empêcher qu'ils soient renvoyés dans leur pays d'origine, ces personnes surnommées les Dreamers, les rêveurs. Avec l'annonce de la régularisation des époux et épouses de citoyens américains, Joe Biden a aussi annoncé une deuxième mesure, un programme pour aider ces Dreamers et leur octroyer des visas sponsorisés par des entreprises. À terme, cela devrait faciliter leur démarche pour obtenir la green card, le permis de résidence permanent. Il y a 2 semaines, Joe Biden avait pourtant durci le ton sur l'immigration en bloquant temporairement les demandes d'asile. Le président avait été vivement critiqué dans son propre parti et par des associations de défense des droits humains. Elle lui reprochait de rivaliser avec Donald Trump sur la question de l'immigration, devenue une des préoccupations principales des électeurs américains. À Atlanta, Edouard Maille pour Radio Vatican.
Preuve de la dégradation constante de la situation en Haïti, le nombre de déplacés internes a augmenté de 60% depuis mars dernier. 600 000 personnes ont ainsi été contraintes d'abandonner en tout leur maison en raison des exactions commises par les gangs, particulièrement à Port-au-Prince, la capitale, sur un total de 10 millions d'habitants. Des chiffres donnés par l'Organisation internationale pour les migrations. La majorité de ces personnes ont pu être accueillies par des familles. Avant de passer au dossier des nouvelles du C9, le conseil des cardinaux qui entoure le pape et qui s'est achevé hier. Pendant cette 3e rencontre de l'année, lundi et mardi, les participants ont poursuivi leurs réflexions sur le rôle des femmes dans l'église en écoutant 3 femmes. Ils ont repris également leurs échanges sur la protection des mineurs face au scandale des abus. La prochaine rencontre du C9 aura lieu en décembre prochain. Il y a une décennie de cela, en juin 2014, Mossoul et la plaine de Ninive, dans le nord de l'Irak, étaient conquises par le groupe État islamique, semant mort et destruction sur son passage. Un douloureux souvenir aux stigmates persistantes malgré la libération 3 ans plus tard. 10 ans après donc, l'exode des chrétiens n'a pas été inversé. Certaines peurs demeurent, même si un mouvement de retour s'opère, particulièrement dans la plaine de Ninive, un peu moins à Mossoul. Avec le retour de l'ordre et la sécurité dans les rues, les habitants soufflent enfin. L'archevêque chaldéen de la ville, qui a accueilli pour la première fois de l'histoire un pape en mars 2021, nous témoigne ce matin de la renaissance des espérances à l'œuvre dans cette cité mésopotamienne, emblème historique de paix et de coexistence. Monseigneur Michael Najib revient d'abord sur les obstacles empêchant le retour en nombre des familles chrétiennes.
Malgré tout le progrès par rapport à la sécurité, l'infrastructure, les gens restent quand même inquiets et hésitants. Elles disent, Monseigneur, on ne peut pas revenir à Mossoul et même dans la plaine du Nive quelquefois, quand il n'y a pas des garanties. Personne ne peut garantir quoi que ce soit. L'Église elle-même, parce qu'elle a tout perdu. La question financière, ils ne peuvent pas s'investir de nouveau s'il n'y a pas un soutien, surtout du gouvernement. Et le gouvernement vient juste vraiment de commencer un peu timidement à restaurer quelques églises, quelques maisons, récompenser un petit peu, mais c'est vraiment 3 fois rien. Il y a des gens qui m'ont dit carrément, la première fois, on a réussi à se sauver avec nos enfants, bien qu'on a perdu tout le matériel, mais aujourd'hui, qui va nous garantir qu'on ne va pas perdre nos enfants ?
Selon vous, quels signes de renaissance et d'espérance luisent dans cette société irakienne en pleine cicatrisation ?
Depuis 4 ans, moi j'habite physiquement à Mossoul et je me sens tout à fait en sécurité. On ne pense plus comme auparavant à l'époque de Daesh et à l'époque de Al-Qaïda. C'est un chrétien, c'est un musulman, c'est un yézidi. Tout le monde vit vraiment en fraternité, en gardant le respect les uns pour les autres. Même dans les mosquées, le vendredi, quand ils prêchent, ils n'utilisent plus des mots qui nous blessent ou qui nous humilient un petit peu, comme les impies, etc., les polythéistes. On n'entend plus ce genre d'expression. Ceux qui portent quoi que ce soit du mal les uns aux autres, il y a la loi qui le condamne. Donc il y a une confiance qui commence à naître entre déjà les différentes parties des habitants de Mossoul et en même temps l'héritage nous unit. Les activités, le service, la part des jeunesses, c'est eux qui plantent des arbres dans les rues, des bénévoles énormément qui nettoient les rues. Certainement tout n'est pas rose. Il reste encore un petit peu cette idéologie néfaste de Daesh et d'Al-Qaïda dans la tête de certains, mais ça se soigne progressivement. Quelquefois même on blague entre nous, les moulas et les évêques et puis les prêtres. On peut dire la vérité quand même et partager nos idées avec les autres sans qu'ils sortent son revolver ou son kalachnikov pour nous tuer.
Diriez-vous dans une certaine mesure que Mossoul renoue avec sa vocation historique de paix et coexistence religieuse ?
De plus en plus aujourd'hui, je remarque de Mossoul, de Ninive, donc la ville de Jonas, musulmans, chrétiens, yézidis ou Shabak ou autres, retournent vers leur propre histoire. Il y a beaucoup de l'assyriologie au plan linguistique, au plan histoire, des monuments, les symboles de l'empire assyrien ou babylonien, de cette Mésopotamie, berceau de l'écriture et de l'humanité, de l'université, et beaucoup de jeunes commencent à montrer un peu cette histoire dans les monuments qui commencent à planter dans les grandes rues, des carrefours de la ville. Autrefois, ça ne se faisait pas. Et vraiment, on voit de moins en moins des gens idéologiquement fermé. Et moi, je me promène vraiment avec mon habit d'archevêque, rouge et noir, dans les ruelles. Les gens me saluent, on prend un thé, on parle avec des gens librement, sans aucune humiliation et aucune violence.
Comment expliquez-vous cette amélioration nette du dialogue et de la fraternité ?
Il y a un proverbe chez nous, quand on voit la mort, on accepte le mal ou la maladie. Ça veut dire quand ils ont vu ce que Daesh a fait contre même l'islam, il y a un retour vers l'humanité. Et la visite du Saint-Père François à Mossoul a chamboulé beaucoup d'idées injustes qu'ils avaient contre les chrétiens. Quand on voyait des milliers de jeunes, enfants, adultes, universitaires dans les rues avec le drapeau du Vatican et le drapeau d'Irak, mais c'était quelque chose de très touchant. Ils ont commencé à goudronner les rues, à ranger, pour embellir un peu les villes. Ils ont dit, on espère que chaque année que le Saint-Père vient pour qu'on travaille mieux. Et deux autres, ils ont dit, on aurait aimé d'avoir un président comme le pape pour l'Irak.
Interrogé par Delphine Allaire, Monseigneur Michael Najib, l'archevêque chaldéen de Mossoul en Irak, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Au prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 13h, heure de Rome. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet www.vaticannews.va pour suivre notamment l'audience générale du pape François, place Saint-Pierre. Très bonne journée à toutes et à tous.